Bonjour, bienvenue dans votre nouveau format Flash. Aujourd'hui, je voudrais prendre quelques minutes pour parler de cette actualité qui m'a frappé parce qu'elle fait sens avec beaucoup d'autres choses qu'on peut observer. On va le voir. 83% des Canadiens seraient favorables à un rapprochement et éventuellement à une intégration comme membre à l'Union européenne. Le résultat du sondage se découpe de manière un petit peu différente, avec 25% des sondés qui pensent que c'est une bonne idée d'intégrer l'Union européenne et 58% en tout cas qui pensent que l'idée mérite d'être étudiée. Pourquoi est-ce que je trouve ça extrêmement intéressant dans le cadre des tensions actuelles qu'il peut y avoir entre le Canada et les États-Unis? C'est parce que depuis quelques mois, on voit se multiplier sur X notamment, sur les réseaux sociaux, ce genre de posts qui imagine donc la plus grande Union européenne avec l'idée que non seulement le Groenland, mais également le Canada font partie de l'Union européenne et devraient lui être intégrés. Ainsi que la Géorgie dans ce... et partie... Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis l'Azerbaïdjan, mais enfin, la carte est un petit peu approximative de toute façon. Bref, vous comprenez l'idée, c'est cette idée finalement qu'il y aurait un État européen, une grande Union européenne qui serait alternative finalement, et qui se composerait d'à peu près tout ce qu'on appelle l'Occident en général, c'est-à-dire l'Europe plus l'Amérique du Nord, à l'exception des États-Unis, qui sont désormais perçus comme une menace par ce nationalisme européen, également par le nationalisme canadien. Alors pourquoi est-ce que tout ceci m'intéresse? Parce que chez moi, ça évoque, et surtout quand on pense aux tensions qu'il y a déjà eu autour du Groenland et au risque peut-être de guerre qu'il pourrait y avoir après, puisque l'idée a été mentionnée d'ores et déjà. C'est que ça me rappelle un schéma que j'ai peut-être déjà évoqué dans une émission précédente, mais que j'ai pas détaillé. Donc ça me paraît important, en tout cas, d'y revenir, au moins dans un format court comme ça, vous aurez la référence pour vous y retourner. Qu'est-ce que c'est que cette référence? Eh bien, c'est la façon dont historiquement l'unité allemande s'est faite et la façon dont elle s'est faite, disons, la construction nationale de l'espace germanique dans son ensemble. Puisque la réalité, si vous prenez, je vais y revenir, mais si vous prenez le monde européen et l'espace germanique notamment, en 1900, c'est-à-dire si vous prenez l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, hein, les empires centraux, j'exclus l'Empire ottoman, même s'il était leur allié, mais l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, depuis 1879, étaient dans ce qu'on appelait la duplice, et en réalité, c'était un partenariat très étroit, également une proximité civilisationnelle grande, puisque l'Autriche est aussi allemande que l'Allemagne, finalement, sur le plan linguistique notamment, donc il y a une très grande proximité. Et l'Autriche-Hongrie était un peu le partenaire mineur de l'Allemagne, qui notamment économiquement était le principal, puis surtout qui rassemblait plus de populations strictement allemandes que l'Autriche-Hongrie elle-même, puisque l'Autriche-Hongrie c'était en réalité un empire de l'Autriche allemande, sur les Tchèques, les Hongrois, les Slaves de Yougoslavie, etc. Et je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire là-dessus. Pourquoi? Parce que, précisément, ça vous montre que on peut avoir un espace civilisationnel commun comme ça, mais avec des pôles de constructions différentes, contrairement à par exemple un cas comme le cas de la France, où c'est clairement le bassin parisien qui a dominé de manière relativement linéaire pendant toute l'histoire de la construction nationale française et qui a fini par s'imposer. Il y a d'autres endroits, même s'il y a quand même eu, je le rappelle, au moment de la fin des guerres de religion, un basculement de pouvoir d'une certaine manière, puisque c'est Henri de Navarre, Henri IV, qui a pris le pouvoir à Paris, aidé notamment de ces fameux Gascons, hein, donc il y a eu comme ça une fusion véritablement du Sud avec le Nord, mais il y a quand même eu une lutte de pouvoir. Mais l'Allemagne, la construction nationale allemande, montre un exemple encore plus affirmé, hein, c'est un spectre de lutte comme ça entre des pôles en réalité de puissance à l'intérieur du même espace civilisationnel et qui amène finalement à donner tel ou tel aspect final à la construction nationale. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que avançons un peu dans le temps, là j'étais parti de 1500 pour que vous voyez. Ce qui s'est passé, c'est que vous aviez l'Empire romain germanique qui n'était pas unifié. En réalité, c'était une multitude de petites entités. Mais bon, j'utilise Géacron parce que c'est extrêmement pratique pour aller d'une date à la suivante. Donc, si vous arrivez au XVIIIe siècle, eh bien l'Autriche, de son côté, finalement, la maison de Habsbourg a étendu son empire et créé son empire en direction de l'Autriche, comme vous le savez, notamment au détriment des Ottomans. Et vous arrivez à partir de 1750 avec, enfin, dès 1720 en réalité, avec le détachement de la Prusse qui va devenir, qui se détache donc de la, des possessions des Habsbourg et qui va devenir un royaume indépendant et de plus en plus, enfin indépendant mais toujours à l'intérieur de l'Empire romain, mais indépendant des possessions habsbourgeoises, et avec ensuite avec une nouvelle dynastie qui va être la dynastie des Hohenzollern qui vont régner sur la Prusse. Et donc vous voyez au fil du temps ce deuxième pôle se renforcer de plus en plus à l'intérieur, à l'extérieur aussi, mais à l'intérieur de l'espace germanique lui-même, notamment au lendemain des guerres napoléoniennes. Et donc vous vous retrouvez au XIXe siècle avec deux pôles relativement équivalents. Et ça vous évoque quoi? Ça vous évoque les États-Unis d'Amérique qui, au lendemain de leur indépendance, était encore une excroissance, une simple excroissance et relativement faiblement peuplée et faiblement étendue par rapport à l'Europe elle-même, et qui petit à petit s'est renforcée jusque donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, où là vous aviez en gros deux pôles équivalents, qui étaient d'un côté les États-Unis et de l'autre la vieille Europe en fait, hein. Et ça c'est un petit peu l'état dans lequel on était au lendemain des guerres napoléoniennes. Et le temps passant au fil du 19e siècle, vous avez eu un renforcement continu et considérable de la Prusse, qui est devenue de plus en plus influente dans le nord de l'espace allemand, de cet espace de la Confédération germanique, qui était l'ancienne Saint-Empire romain germanique, et donc qui est devenu un concurrent de plus en plus sérieux de l'Autriche, et l'Autriche, et qui a donc voulu imposer sa domination, et avec notamment l'idée de mettre en place, vous le savez, c'est Bismarck, la solution petite allemande, hein, c'est-à-dire le fait de, tout simplement, établir la domination prussienne sur une seule partie de l'Allemagne parce qu'il n'y avait pas volonté de conquérir l'Autriche à ce moment-là. Mais donc c'était un moment de véritable rivalité, une polarisation finalement à l'intérieur de l'espace allemand dans lequel vous aviez une Prusse qui voulait ravir en fait le leadership allemand à l'Autriche, et l'Autriche qui voulait maintenir sa prééminence traditionnelle au sein de cet espace. Et ça, c'est très proche de ce qui se passe actuellement, finalement, avec. Et ce qui était important à l'époque, c'est que la Prusse était en pleine industrialisation. Je vais peut-être pouvoir vous afficher ça. Les vagues industrielles qui montrent comment les choses se sont, comment l'industrie s'est étendue. Voilà, c'est cette carte qui sur la Révolution. Vous allez, j'espère que je vais pouvoir l'afficher. Voilà, on s'en fiche. Voilà. Voilà, regardez cette carte qui vous montre la façon dont la révolution industrielle s'est étendue, en fait, hein, puisque ça s'est étendue comme un mouvement de proche en proche, depuis l'Angleterre où elle est née, en direction du reste de l'Europe. Et donc, comme l'Autriche était plus éloignée, l'Empire austro-hongrois, de manière générale, est resté beaucoup plus agraire et s'est industrialisé plus tard, une vingtaine d'années plus tard, que l'Allemagne, qui avait cette avance technologique et industrielle sur l'Autriche. Et en fait, avec la nouvelle industrialisation, on va dire, mais ça a commencé depuis les années 80, avec d'abord les télécommunications, puisqu'on a raté un petit peu le virage du numérique, et on risque de rater aussi le virage véritablement de l'IA, puisqu'on n'a pas les géants qu'il faut pour l'instant en Europe, on se retrouve un petit peu dans la même situation que l'Autriche-Hongrie, c'est-à-dire que qui, après avoir été traditionnellement le pôle dominant dans cet ensemble allemand à l'époque, nous c'est dans l'ensemble occidental que c'était le cas de l'Europe, eh bien on se trouve petit à petit déclassé et avec les États-Unis qui, dans le rôle de la Prusse, eux sont en pointe de cette évolution industrielle, ont toute la puissance que leur donne cette avancée industrielle et donc qui finalement veulent eux avoir leur leadership. Et d'une certaine manière, et c'est l'idée qu'il y a dans la plus grande Amérique du Nord, hein, c'est Pete Hegseth qui a mentionné cela. Je vais le retrouver. Voilà, c'est Pete Hegseth qui a mentionné, voyez, l'idée qu'il fallait une. Alors, je sais pas. La plus. Oui, voilà. Greater North America, c'est donc l'idée en fait de mettre la main sur l'Amérique du Nord. C'est ce que je vous ai dit sur la phase absolutiste américaine, c'est-à-dire l'idée que le Groenland et le Canada, ce sont leurs frontières naturelles. Et c'est l'équivalent de la solution petite allemande en fait. Hein. C'est exactement la même chose. C'est du Bismarck, c'est la phase absolutiste, c'est l'idée on va faire la solution petite allemande, mais finalement on va faire la solution petite occidentale, c'est la solution en Amérique du Nord. Et en fait, c'est vers ça que les États-Unis sont, et l'Union européenne, et l'Europe en général, avec ce genre de rêvasserie sur la domination européenne sur le Canada et le Groenland, déploie le même genre d'illusion, en fait, et d'auto-persuasion que l'Autriche-Hongrie a pu faire à l'époque. Et ça lui a coûté très cher. Alors, je rappelle que ça a donné la guerre austro-prussienne de 1866, dans laquelle vous aviez en fait la Prusse qui était presque seule contre une Autriche qui était alliée avec quasiment la totalité des petits États que la Prusse entendait fédérer. Hein. Vous les voyez sur cette carte et vous voyez qu'en fait c'est tout cet espace-là, le Hanovre, la Bavière, le Württemberg, qui était donc du côté et la Saxe, qui était donc du côté de l'Autriche-Hongrie. Cela n'a pas empêché que, grâce à la victoire de Sadowa, ça a été quasiment une guerre éclair, victoire de Sadowa, victoire écrasante de l'armée prussienne contre l'Autriche et contre tous ses alliés. Tout ceci a débouché sur quoi? Eh bien, a débouché sur, dans un premier temps, la Confédération de l'Allemagne du Nord, avec maintien de l'indépendance de la Bavière et des États du Sud, qui étaient des États, on va dire, qui appartenaient plus à l'espace civilisationnel autrichien, parce que la Confédération de l'Allemagne du Nord, c'était l'Allemagne protestante. La Bavière, le Württemberg, le Bade, ça restait l'Allemagne catholique, qu'il est toujours aujourd'hui. Mais néanmoins, quelques années après, vous avez eu la fin avec la guerre contre la France et la naissance de l'Empire allemand. Tout simplement. Et à partir de 1879, je vous le disais tout à l'heure, il y a néanmoins eu un re-rapprochement. Donc vous avez eu en fait moins d'une quinzaine d'années pendant laquelle l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont été véritablement antagonistes. Et encore, l'antagonisme s'est très vite calmé après que l'Autriche ait été vaincue, en fait. Mais elle a mis un moment à oublier et à se calmer et à admettre ce qui s'était passé. À partir de là, étant donné qu'il y avait malgré tout une convergence civilisationnelle très importante entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, et surtout entre l'Autriche et l'Allemagne, bien sûr, eh bien, ça a donné la Duplice à partir de 1879. Et pendant donc les 30 ans qui ont suivi, l'Autriche-Hongrie est devenue le partenaire mineur de l'Allemagne dans cette alliance, puisque l'Allemagne était beaucoup plus industrialisée, elle était également plus peuplée, et donc, force pratiquement deux fois plus peuplée. Donc, elle est restée un partenaire mineur là-dedans, mais lorsque la guerre suivante s'est déclarée en 1914, eh bien les deux étaient ensemble et ont combattu comme un seul espace finalement impérial germanique, puisque c'était les Allemands, l'espace allemand, plus autre chose, et notamment l'espace qui était dominé par la Hongrie et qui comprenait majoritairement d'autres peuples que le seul peuple autrichien. Mais donc, vous voyez que le parallèle est extrêmement fort entre ce qu'on voit entre les États-Unis et l'Europe et l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. À l'époque, c'était sur l'espace civilisationnel allemand et la construction de cet espace, c'est une polarité. Et aujourd'hui, c'est la même chose entre l'Europe et les États-Unis, au sein de cet Occident dans lequel chacun cherche sa place et cherche encore. Il y a encore une volonté européenne qui renaît de penser qu'on peut toujours tenir la dragée haute et avoir le haut du pavé finalement dans cette alliance, qui à mon avis est une illusion. Je pense que toutes ces rêveries justement nous préparent un Sadova et ce serait terrible qu'il soit au terme d'une véritable confrontation militaire entre l'Europe et les États-Unis, mais ce n'est pas totalement à exclure. Il est possible que cela arrive dans les prochaines années ou les prochaines décennies. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce format-ci. Je pense que c'est important parce que c'est un parallèle qui est structurant et sur lequel je reviendrai régulièrement, je pense, et qui permet d'éclairer ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et l'Europe. Ça permet de le mettre en perspective et de voir qu'il y a une dynamique sous-jacente qui est connue et qui n'est pas sans danger pour certaines illusions européennes. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau format. Vous ne laissez pas faire.